Vous écoutez
RMC.
Jeudi 25 juin,
l'info sur RMC.
Elle est là pour vous, pour les dernières informations. Céline Kallmann est là, il est 7h01. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Le professeur Didier Raoult, invité exceptionnel ce matin de RMC et BFM TV à 8h20. Hier devant l'Assemblée, l'infectiologue a dénoncé la politique des tests mise en place au début de l'épidémie de Covid en France. Un système archaïque. 6 milliards d'augmentation de salaire et de primes pour les soignants, annonce du ministre de la Santé hier soir. Les médecins ne sont pas concernés. Un régime exceptionnel longue durée, le nouveau dispositif du chômage partiel a été présenté hier par Emmanuel Macron. Il pourrait être mis en place dès le 1er juillet. Bienvenue sur RMC. Un discours sur le ton de l'évidence, des certitudes à toute épreuve, un show à la Raoult. L'infectiologue marseillais Didier Raoult a été auditionné hier pendant 3 heures devant la commission d'enquête sur le coronavirus à l'Assemblée nationale, devant des députés peu bavards. Caroline Philippe.
Première critique, les tests de dépistage organisés à ses yeux de façon archaïque. Le professeur Raoult estime que la technique de test mise au point par l'Institut Pasteur à Paris n'a pas été déployée assez vite partout en France et il regrette que ces tests n'aient pas été généralisés.
Dès le début de mars, l'OMS a recommandé de tester tous les gens qui étaient suspects ou contacts. Il y avait les moyens dans ce pays de le faire. On n'a pas dit la vérité. C'est un examen extrêmement simple, banal, tout le monde est capable de le faire. Ça peut être fait dans les labos privés. C'était indispensable de le faire parce qu'on ne connaissait pas la maladie.
Didier Raoult a également attaqué le conseil scientifique qui n'en est pas un, selon lui, et qu'il a donc préféré quitter après une brève apparition.
J'étais un ovni. Il n'y avait pas de compatibilité génétique entre nous. Donc, c'était pas possible. Je pense que c'est le président qui a souhaité que je fasse partie de ce groupe. Donc, je suis arrivé secondairement dans un groupe de gens qui avaient l'habitude de travailler ensemble, qui avaient des idées très précises, qui avaient déterminé ce qu'il fallait faire. Avant que j'arrive, j'étais pas d'accord.
Quant à l'hydroxychloroquine, Didier Raoult a une nouvelle fois dénoncé des conflits d'intérêts. Les détracteurs de cette molécule seraient selon lui financièrement liés à un laboratoire qui fabrique un autre médicament également testé contre la Covid-19.
À propos de l'épidémie, Didier Raoult a émis 2 hypothèses. Soit elle disparaît complètement, soit elle devient saisonnière. Il va falloir surveiller la Nouvelle-Zélande où c'est l'hiver actuellement. Le professeur Raoult, qui je vous le rappelle, sera donc l'invité exceptionnel de Jean-Jacques Bourdin à 8h20 sur RMC et BFM TV. Concernant les tests, Didier Raoult a parlé, vous l'avez entendu, d'une organisation archaïque et l'appel du gouvernement il y a 2 mois à se faire tester massivement n'a, semble-t-il, pas été entendu. Les laboratoires privés qui ont beaucoup investi se retrouvent désormais avec des tests sur les bras, des tests périssables. Martin Juret.
En moyenne, 10 fois moins de tests que prévu sont réalisés chaque jour. Les laboratoires Biogroup sont en sous-régime, constate Arthur De Noël, responsable du plateau de microbiologie à Saint-Denis.
Nous, on s'était équipé sur le groupe au niveau national pour réaliser 50 000 tests et actuellement, on en fait 5 000. Les écouvillons, les emballages, ça peut être réutilisé aussi pour autre chose. Et par contre, les réactifs, on était plus inquiets parce qu'il y a une date de péremption qui est assez courte. Les premiers coffrets pour nous, périment en septembre, et les derniers dans 1 an à peu près.
Ces surplus de stocks sont coûteux. 2 solutions sont envisageables pour les écouler, explique François Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes.
C'est d'abord de voir avec les confrères qui en ont besoin, peut-être dans certaines régions, avant tout, mais aussi de voir si nous ne pouvons pas céder ou revendre, en tout cas, ces stocks à des pays étrangers qui en ont besoin plus que nous aujourd'hui. L'Amérique du Sud, l'Afrique en particulier, encore l'Angleterre, sont des endroits où, évidemment, on teste en grande quantité.
Ces biologistes espèrent que l'organisation sera plus efficace à la rentrée pour faire face à une éventuelle seconde vague et donc de nouveaux tests à réaliser.
Le gouvernement prêt à injecter 6 milliards d'euros pour augmenter les salaires des soignants. C'est le montant de l'enveloppe annoncée par Olivier Véran, le ministre de la Santé, hier soir. Une somme que devront se partager les hôpitaux, les EHPAD et une partie du secteur privé. Didier Birig est secrétaire fédéral du syndicat FO Santé. Il ne s'attendait pas à moins.
C'est le choix des Français qui nous ont applaudi tous les soirs à 20h que d'avoir un système de soins à la hauteur de leur espérance, c'est-à-dire avec des soignants qui travaillent dans de bonnes conditions et des malades qui sont pris en charge dans de bonnes conditions. Donc il faudra peut-être y mettre de l'argent, mais je pense que c'est le choix des Français ce soir que de se dire que ça va peut-être coûter des sous, mais ça sert à tout le monde et c'est quand même bien pratique lorsque l'hôpital peut recevoir dans de bonnes conditions les Français et les malades.
Comment stopper l'hémorragie des licenciements dans les prochains mois en France? Le gouvernement mise sur le chômage partiel longue durée. Les nouvelles modalités ont été dévoilées hier aux partenaires sociaux. Le dispositif s'adresse aux entreprises qui connaissent une baisse importante de leur activité comme l'aéronautique, l'automobile ou le tourisme. Jérémy Trottin.
Dès le 1er juillet, toutes les entreprises qui verront leur activité baisser pourront en bénéficier à plusieurs conditions seulement. Avoir d'abord signé un accord avec les syndicats ou au niveau de la branche. Ainsi, un salarié de l'automobile, du tourisme ou de l'événementiel qui verra son temps de travail limité jusqu'à 60% de son activité normale pourra voir son salaire compensé en grande partie par l'État. Jusqu'à 100% pour le personnel payé au niveau du SMIC, 84% pour les hauts revenus. Ce dispositif qui, selon le gouvernement, doit assurer au maximum le maintien de l'emploi jusqu'à la reprise, ne pourra en revanche éviter l'ensemble des suppressions de postes, prévient déjà l'Élysée.
10 milliards de dollars. Bayer s'apprête à débourser cette somme astronomique pour indemniser des plaignants américains, des plaignants victimes de cancer. Ils affirment être tombés malades à cause du Roundup, un puissant pesticide. Marion Fournet.
Oui, depuis 2018 et leur achat de Monsanto, producteur du Roundup, Bayer est confronté à des milliers de plaintes, 125 000 au total. Le géant allemand de l'agrochimie va donc payer entre 8,8 et 9,6 milliards de dollars pour résoudre les litiges existants et un peu plus d'un milliard de dollars pour d'éventuels futurs litiges. Bayer espère ainsi mettre un terme aux trois quarts des procédures, un effort salué par les parties plaignantes. C'est un règlement qui rend justice à nos clients, selon une avocate des victimes. Pas de quoi néanmoins éteindre la polémique autour du Roundup. Bayer précise que ces accords ne comptent n'obtiennent aucune reconnaissance de responsabilité ou de faute. Le produit, lui, est toujours commercialisé malgré son classement en cancérigène probable par le Centre international contre le cancer en 2015.
Dans l'actualité également, forte perturbation sur le RER B. Aujourd'hui, hier soir vers 19h, un train qui ne transportait pas de voyageurs a déraillé après avoir quitté la gare d'Enfer-Rochereau. Sauf qu'il ne sera peut-être pas possible non plus de prendre sa voiture dans l'agglomération parisienne à cause de la pollution à l'ozone. Seules les voitures munies d'une vignette critère de 0 à 2 sont autorisées à circuler. Et justement, on reparle ce matin de l'une des 149 propositions rendues par la Convention citoyenne pour le climat. C'est sans doute celle qui fait le plus réagir. Le passage de la limitation de vitesse de 130 à 110 km/h sur les autoroutes, cela permettrait de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Rouler moins vite ? Non merci, ont répondu les automobilistes que nous avons interrogés. Florian Chevalet.
Des autoroutes limitées à 110 km/h pour Sacha, chauffeur de taxi depuis 8 ans, l'idée est très mauvaise.
Ça passera pas, il y aura à nouveau des gilets jaunes ou rouges ou verts, donc qu'ils arrêtent avec ces 110, qui changent autre chose.
Americano est du même avis, ce Parisien traverse la France plusieurs fois par an, 700 km pour rejoindre sa maison dans le Tarn.
On s'en prend qu'aux bagnoles, on a marre, on essaie de tout contrôler. À un moment, les gens, le peuple explose.
L'association 40 millions d'automobilistes va même plus loin et parle d'une idée potentiellement accidentogène. Selon Daniel Quéros, son président, elle pousserait les automobilistes à utiliser les nationales et les départementales.
Quand vous prenez l'autoroute, que vous payez pour prendre une autoroute et qu'on vous réduit la vitesse de 20 km/h, vous perdez du temps. Donc est-ce qu'on ne va pas être tenté de reprendre l'autre réseau routier ? Donc c'est déjà très mauvais pour la sécurité routière.
Autre argument, selon lui, une large part de la population serait opposée à cette mesure.
On est dans un pays déjà qui est clivé. Est-ce qu'on peut se permettre ce luxe de diviser encore les Français alors qu'il y a tant d'autres choses à résoudre.
Une pétition en ligne a d'ailleurs été lancée, baptisée non aux 110 km/h sur autoroute. Selon l'association, elle aurait déjà rassemblé plus de 600 000 signataires.
Puis la réouverture partielle de la Tour Eiffel aujourd'hui après plus de 3 mois de fermeture. Vous pourrez vous rendre uniquement jusqu'au 2e étage avec port du masque obligatoire pour les adultes et des bonnes jambes puisque ce sera uniquement par les escaliers, 674 marches, très exactement.
Avec merci, cette chaleur, je suis pas 600, sûr que ce soit une bonne idée. Oui, mais enfin, plus on monte... Plus il fait frais. Bah non. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas.
Ouais. En vraiment, montagne, peut-être oui, pas. Sur la Paris.
Sur la Tour Eiffel, non. Bien, il est 7h10. Merci Céline, Anaïs et toute l'équipe Cantavinet. Tout le monde est là ce matin pour vous, évidemment. Jérémy est dans l'Isère. Bonjour Jérémy.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à toute l'équipe.
Jérémy, vous êtes les piscines. Alors, vous vouliez une piscine pendant le confinement?
Eh ben, alors moi je suis livreur de béton prêt à l'emploi.
Oui, ah ben ça tombe bien.
J'ai pas arrêté pendant le confinement d'en faire pour certains maçons qui ont continué à travailler. Donc moi mon rythme de travail n'a pas changé.
Oui.
Et du coup je me suis dit bah les vacances pour rattraper les chiffres d'affaires perdus, va falloir travailler double et les vacances bah ça risque d'être compliqué. Donc je voulais une piscine. J'ai dit à ma femme tu vas voir les piscines, tout le monde va vouloir en acheter parce que
exact.
Les piscines, c'est que les gens vont pas pouvoir partir en vacances faute de moyens ou à cause des entreprises qui voudront pas lâcher les
salariés. Et alors? Et alors?
Eh ben, alors, j'avais un budget de 1000 euros, mais à la place, on a acheté un Dyson et un Thermomix. Donc, donc, du coup, la piscine, cette année, je change de boulot, on va même pas pouvoir partir en vacances. Ça aurait été pas mal d'en profiter.
Mais bien sûr.
On a fait un achat plus intelligent. Mais on voulait une piscine hors sol à la base. Avec ce budget-là, on avait une bonne piscine qui est
limite. Hors sol, 1000 euros, oui. Oui.
1000 euros, c'était à peu près 8 mètres par 4.
Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal.
Et à savoir aussi, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des piscines enserrées et tout.
Oui.
Le souci, c'est qu'aussi, les impôts, faut y penser. Parce que l'hiver, il faut en retenir. L'eau, le prix, tout ça, ça coûte vite, vite un budget. Plus l'équiper pour la protéger, parce que maintenant, c'est obligatoire.
Et oui.
Le hors-sol pour tous les gens qui ont envie d'une piscine, c'est la meilleure solution.
Bien, merci beaucoup, Jérémy. Merci, Jérémy. Il y a un endroit où il y a beaucoup de piscines, même s'il y a la mer, c'est Saint-Tropez. Évidemment, et à Saint-Tropez, nous sommes en direct avec Jean Roch. Bonjour, Jean Roch.
Bonjour, Jean-Jacques.
Propriétaire du VIP Room à Saint-Tropez. Vous connaissez, Anaïs, vous connaissez?
Non, j'ai pas eu la chance.
Un jour, vous irez, je suis persuadé. Jean vous recevra sans problème.
Avec joie, avec joie.
Bon, dites-moi. Vous allez rater cette saison, Jean Roch?
Non, on va pas, il faut pas, on n'a pas le droit de la rater, on peut pas ne pas tenir cette promesse, par rapport à toutes les équipes, à tous les gens qui vivent de la saison. Jean-Jacques, il y a deux métiers, les gens parlent beaucoup des clubs, mais on doit surtout, ce matin, si vous êtes d'accord, parler des saisonniers.
Oui.
Une saison, c'est très court, et beaucoup de gens, beaucoup de familles attendent après cette saison. Et on peut pas. On a depuis 3 mois, on a fait patienter 4 mois, on a fait patienter tout un métier, toute une profession autour d'une attente que l'on a espéré. Et nous sommes la seule profession aujourd'hui qui n'a pas le droit de redémarrer à travailler. Tous ces gens qui viennent à Saint-Tropez aussi pour à Saint-Tropez sur toutes les côtes, dans les campings, partout en France pendant l'été pour s'amuser. Ces gens qui attendent cette saison. Les visiteurs, les gens qui y travaillent, non, je peux pas imaginer qu'on puisse aujourd'hui réouvrir les cabarets, réouvrir les écoles, réouvrir et pas réouvrir les clubs. Je ne peux pas comprendre.
Oui, nous non plus, nous ne comprenons pas. Alors vous essayez d'infléchir la position du gouvernement. Plusieurs députés vous soutiennent.
Oui,
alors,
c'est vrai.
Encore une fois, il y a les salariés des discothèques,
oui.
Mais il y a aussi les employés de sociétés extérieures, ceux
bien
qui
sûr.
Assurent la sécurité, par exemple, et tant d'autres. Ça représente des dizaines et même des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent sur le carreau, Jean Roch.
Oui, ces gens-là, et puis surtout, il n'y a pas de séance de rattrapage. Quand on parle des clubs dans les villes, alors j'entends bien que certains prennent un peu de recul et se disent « bon, finalement, on va attendre, on va être patient ». Septembre. Mais nous, une saison, c'est sur 3 mois, c'est juin, juillet, août. On oublie juin, puisque maintenant on s'est consommé et on a été patient, on a usé vraiment d'une grande patience. Là, il reste juillet, août. On peut affronter une petite saison, on ne peut pas affronter une non-saison. Donc il faut absolument ouvrir le 1er juillet, c'est vital.
Alors vous lancez un appel, vous avez lancé un appel, un appel au gouvernement, un appel à la raison, c'est ce que vous dites, Jean Roch.
Il faut pas jeter la pierre au gouvernement, ils ont traité beaucoup de cas en urgence et on s'est retrouvé face à un monstre qu'on ne maîtrisait pas, on ne savait pas où ça commençait, où ça terminait, on n'avait aucune information. Mais là je pense que maintenant que tout a été remis en marche, que tout redémarre progressivement, on peut faire un protocole. Sécurité. On le fait déjà en restauration, on le fait déjà dans les bars, on le fait déjà dans plein de lieux, plein d'endroits. Ce qui est grave, Jean-Jacques, c'est qu'aujourd'hui, on va se retrouver face à quelque chose que le gouvernement ne pourra plus maîtriser, c'est-à-dire une fête sauvage, une fête dans les maisons, une fête sur les bateaux, une fête sur les plages, dans des coins, dans des recoins. Et là, il n'y a pas de professionnel pour encadrer cette fête.
Vous êtes capable, Jean Roch, aujourd'hui, d'accueillir du public tout en assurant le minimum sanitaire indispensable ?
100%, on est tout à fait capable d'encadrer ça. On est capable de contrôler quand après quelques verres, les gens perdent la distanciation. On est capable de tout faire. Oui. On est capable de réduire un petit peu la quantité de monde pour justement que continuer à vivre cet espacement, continuer à encadrer. On est capable de mettre des serveurs comme on le fait dans les restaurants avec des masques, les protéger. On est capable de protéger le public, mais protéger également les équipes. On se doit d'accompagner cette fête. Nul autre que les professionnels du métier peuvent faire ça, nul autre.
Jean-Roch, restez avec nous un petit peu parce que Christelle nous appelle du Morbihan. Bonjour Christelle.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous dirigez une discothèque. Hein. Jean-Roch, Christelle dirige une discothèque dans le Morbihan, hein, Christelle.
Moi je tiens une discothèque dans le Morbihan.
Dans le Morbihan. Et vous êtes comme Jean-Roch, hein. Vous demandez la réouverture, vous ne comprenez pas.
C'est exactement la même chose, le même souci qu'on a, quel que soit l'endroit en France où l'on se trouve. Nous sommes allés avec 9 autres discothèques du Morbihan. Hier soir, il y avait une réunion à Paris avec un député qui nous soutient depuis le début, qui a réussi à fédérer 59 autres députés. Ils nous soutiennent tous et on milite pour une réouverture début juillet parce que la jeunesse française est en danger aujourd'hui avec toutes les fêtes sauvages qui se multiplient et dans des endroits qui sont pas faits pour, avec des gens qui ne sont pas capables d'encadrer. Nous, c'est le cœur de notre métier. On sait le faire. On sait contrôler les gens. On fait de la prévention tous les week-ends. Et c'est à nous de le faire.
Vous avez rendez-vous, Christelle, Jean-Roch. Je crois que vous avez rendez-vous avec le ministre de la Culture. Jean-Roch, vous confirmez ?
Écoutez, il y a un rendez-vous qui se profile aujourd'hui. On est en contact avec son cabinet. Et il y a un rendez-vous qui se profile dans les heures à venir. On devrait en savoir plus. Mais Monsieur Riester s'intéresse à tout notre sujet, malgré qu'il ait voté, je ne sais pas sous quelle contrainte ou dans quelle situation, cet arrêté qui aujourd'hui n'est pas actif. Donc il est encore temps de bien faire, il est encore temps de rectifier le tir, il est encore temps de faire du discernement.
Bien, merci Jean-Roch. Merci. Je sais que vous êtes un auditeur fidèle d'RMC, ça me fait plaisir.
Oui, absolument. Toujours. Merci.
Merci Christelle. Merci. On va suivre évidemment ce dossier d'extrêmement près. Il est 7h18. Anaïs, qu'allons-nous faire avec Marie Dupin ?
Il fait chaud, attention à votre peau. On va parler crème solaire avec Marie Dupin pour savoir ce qui est le plus efficace, évidemment, mais aussi le moins nocif pour l'environnement. Marie Dupin, dans un instant.
RMC. RMC.
Dupin quotidien.
Marie Dupin est avec nous. Ça va, Marie ?
Ça va, et vous ?
Il fait chaud, hein, Marie ?
Ouais, très chaud.
Il fait chaud. Il va falloir ressortir les crèmes solaires. Dans son magazine qui sort en kiosque jeudi, l'UFC que choisit jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui.
Oui, ce matin.
Bah oui, je vois.
Oui.
D'accord. L'UFC que choisir publie un test des crèmes les plus efficaces.
Exactement, les plus efficaces pour protéger la peau, mais aussi pour protéger la mer et l'océan, hein, parce qu'on sait que les crèmes solaires.
Tiens. Est-ce que vous avez vu, je fais juste une petite parenthèse, est-ce que vous avez vu, je m'adresse à Charles Magnin aussi, à toute la table, est-ce que vous avez vu ce pot de yaourt retrouvé sur une plage
76, dans quelque chose comme ça
40 ans après, il est intact.
Intact. Oui.
Absolument.
C'est des
intact.
Centaines
40
d'années.
Ans après, un pot de yaourt parfait. Il est en Yoplait, je crois, la marque.
Oui. Vous l'avez vu
le jeu de Yoplait.
Pour les JO. Pour les JO.
C'est plusieurs années, centaines d'années pour se dégrader dans la nature, le plastique.
Bon, alors donc.
Mais
avec
le thème du jour étant les crèmes solaires, on va se recentrer.
Là aussi. Mais tous les flacons sont en plastique.
Et oui, c'est pas faux. Mais l'idée, c'est de pas de les jeter sur la plage et de les ramener chez soi et de les jeter à la poubelle. En tout cas, à l'intérieur des crèmes solaires, souvent, il y a des filtres qui menace l'écosystème marin et notamment les coraux, puisqu'on sait que les coraux sont menacés de disparition. Donc, il y a plusieurs régions d'ailleurs dans le monde, notamment Hawaï, Key West en Floride ou les Palaos dans le Pacifique, qui ont interdit plusieurs substances particulièrement problématiques.
Oui, du coup, les fabricants de crèmes solaires, des substances qui sont à l'intérieur, que contiennent...
Suppriment substances dangereuses.
Suppriment des substances dangereuses des fabricants.
On voit sur les crèmes solaires de beaux logos bleus, mettant en avant la protection de l'océan. Sauf qu'un logo ne fait pas tout, en fait, c'est très compliqué de savoir savoir si une crème solaire est efficace pour la peau, ne nuit pas trop à l'environnement. Donc le FC Que Choisir a fait tester ça en laboratoire. C'est le résultat de ce test qui ressort aujourd'hui. Il y a quand même deux crèmes que je voudrais mettre en avant parce qu'elles sont à la fois...
Allez-y.
Très protectrice pour la peau et pour l'environnement, donc elles sont au top. C'est la Biotherm Water Lover et la Cartier, le spray solaire
Cartier,
protection solaire Cartier et Biotherm.
Voilà, et Biotherm Water Lover.
Voilà.
Water Lover.
Water Lover.
Ah d'accord.
on se moque pas de mon anglais. Et voilà, il y a d'autres produits qui protègent bien la peau dans le panel, mais qui sont moins protectrices de l'environnement.
D'accord, d'accord. Il y a un grand nombre de crèmes testées qui ne protègent pas suffisamment la peau.
Et là, c'est vraiment, vraiment embêtant. Selon l'UFC, de nombreuses crèmes solaires affichent des indices de protection qui ne sont pas respectés. 7 au total, soit un tiers de la sélection. Certaines ne protègent ni des UVA ni des UVB. Ce sont donc des produits qui sont à proscrire, puisqu'on rappelle que l'exposition au soleil provoque des mélanomes qui sont des cancers très dangereux qui métastasent, qui peuvent tuer. Donc, vraiment faire très attention à la crème qu'on choisit. Et puis, globalement, ne pas s'exposer pour bronzer. On met de la crème solaire en complément.
Merci Marie, merci. Il est 7h25, Charlemagne, l'actu des réseaux sociaux.
RMC, hashtag Mania.
Plusieurs grandes entreprises vont boycotter Facebook dans le cadre d'une campagne de lutte contre les propos haineux.
Stop hate for profit, non à la haine pour les profits. C'est le slogan de cette campagne lancée par plusieurs associations aux États-Unis, en particulier les défenseurs des droits des Afro-Américains. Objectif, dénoncer l'inaction, la passivité de Facebook face aux propos haineux et aux contenus violents. Concrètement, ils reprochent à Facebook de ne pas assez lutter, on le sait, contre les fake news, mais aussi de laisser la haine et le racisme prospérer au sein de certains groupes sur Facebook. Alors, pour se faire entendre, ces assos ont lancé un appel aux annonceurs en leur suggérant d'arrêter leur campagne de pub sur Facebook. Deux grandes marques de vêtements, Patagonia et The North Face, ont immédiatement répondu favorablement et stoppé pendant un mois toute leur campagne publicitaire sur Facebook et Instagram, qui appartient à Facebook. Et puis, hier, c'est la célèbre marque de glace Ben & Jerry's qui a rejoint le mouvement. Alors évidemment, l'impact financier sera assez minime pour Facebook. C'est quand même 18 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier, en grande partie grâce à la pub. Mais cette campagne s'inscrit dans un mouvement plus global. Tous les réseaux sociaux cherchent en ce moment la bonne réponse au mouvement Black Lives Matter. Éviter de devenir des espaces où la haine se propage, tout en évitant de tomber dans la censure pure et simple. Pour l'instant, aucun n'a trouvé la formule magique, Jean-Jacques.
Autre conséquence inattendue de ce mouvement Black Lives Matter, les voitures de police ont disparu du jeu vidéo Fortnite.
Mais oui, dans la nouvelle version du jeu sortie la semaine dernière, plus de véhicules des forces de l'ordre. On va rappeler que Fortnite, c'est le jeu vidéo en ligne le plus populaire sur la planète en ce moment. Les joueurs sont sur une carte et doivent accumuler des armes, des ressources pour éliminer les autres. Et jusqu'à présent, dans l'univers du jeu, on pouvait croiser des voitures de police qui ont donc disparu dans la dernière mise à jour. Aucune explication officielle. Les créateurs du jeu s'expriment de manière anonyme dans la presse américaine. C'est notre manière d'être sensible aux problèmes que rencontre une grande partie de notre public, dit l'un d'eux sous couvert d'anonymat. On comprend mal le sens de ce geste en retirant les voitures de police. D'ailleurs, certains pensent que le studio qui a créé le jeu a voulu surtout s'éviter une polémique avec des joueurs qui se serviraient des voitures de police pour tuer d'autres joueurs, car tous les géants du jeu vidéo sont très vigilants vis-à-vis de cette actualité américaine. Par exemple, Electronic Arts a repoussé d'une semaine la présentation de son jeu de foot FIFA 21 afin, je cite, de laisser la primauté de l'actualité au mouvement Black Lives Matter.
Yannick vit à Los Angeles aux États-Unis, est en direct avec nous. Bonjour Yannick.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
À propos du coronavirus, qu'est-ce que vous vouliez dire?
Ouais, bah écoutez, ici tout réouvre et c'est vrai que dans des états comme la Californie, l'Arizona, le Nevada, la Floride, il fait très chaud.
Ouais.
Et le professeur Raoul parle beaucoup d'une périodicité hivernale et j'ai du mal à m'expliquer ça avec ces états qui sont en plein pic d'épidémie alors qu'il fait très chaud.
Oui, en plein pic d'épidémie alors qu'il fait très chaud. Ben oui, Yannick. Non mais vous posez une bonne question. Comment se fait-il que l'épidémie se poursuit alors qu'il fait très chaud? Hein Yannick? C'est ce que vous
exactement,
voulez dire. C'est la question que vous posez.
Oui, exactement. Ouais.
Comment expliquer cela? On dit que c'est une épidémie saisonnière. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais effectivement, vous avez raison, Yannick, de le souligner. C'est une question que je vais poser au professeur Raoul tout à l'heure. Évidemment. Merci, Yannick, dans tous les cas.
Mais de rien.
Et merci d'être avec nous. Il est 7h29 à suivre.
On reviendra justement sur l'audition de Didier Raoult hier par les parlementaires. On va y revenir avec deux spécialistes qui vont nous aider à y voir plus clair, voir s'il a été convaincant. Pierre Tadevin, président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Et puis Alain Ducardonnet, médecin cardiologue et surtout spécialiste santé à BFM TV. C'est à suivre juste après le journal.
Merci d'être là, il est 7h30, vous êtes sur RMC, c'est Rémi Inc qui est là pour les dernières informations. Rémi, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. 6 milliards d'euros pour les salaires des soignants, une refonte de leurs primes, une enveloppe et une date, mais il reste à trouver un accord avec les syndicats sur la répartition de cet argent, le secteur privé pouvant en bénéficier. Didier Raoult, très critique hier sur la gestion de la crise sanitaire par les autorités, il décrit l'organisation des tests comme archaïque. On n'a pas dit la vérité, lance le chercheur marseillais devant les députés. Et puis un symbole dans le Puy-de-Dôme, les salariés d'une usine qui travaillait pour le secteur médical ont perdu leur emploi, usine déplacée en Roumanie. Les salariés qui se battent aujourd'hui pour incarner la relocalisation en France. Emmanuel Macron avait promis un plan d'envergure pour l'hôpital en pleine crise du coronavirus. Hier, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé une première proposition chiffrée, 6 milliards d'euros qui pourraient être alloués aux hôpitaux, aux EHPAD publics et une partie au secteur privé. Pour la première fois depuis le début de la concertation, ce Ségur de la Santé, les syndicats sont fixés. Mao Becker-Granier, Olivier Véran propose aujourd'hui une enveloppe et un calendrier.
L'enveloppe, 6 milliards d'euros qui doivent servir à trois choses. L'augmentation immédiate des salaires des agents publics du secteur hospitalier. Ils espèrent une hausse d'environ 300 euros. Il y aura aussi des majorations supplémentaires plus ciblées pour certaines professions les moins bien payées, notamment les infirmiers, les aides-soignants ou encore les techniciens de laboratoire. Cette enveloppe servira aussi à repenser le système des primes dans son ensemble. En plus d'un chiffre, les syndicats ont obtenu hier une date. Les hausses de salaire pourraient entrer en vigueur dès le 1er juillet.
Une enveloppe, une date, Mao, mais les négociations qui sont encore en cours, les syndicats qui ne sont pas encore totalement satisfaits.
Oui, la mauvaise surprise pour les syndicats hospitaliers, c'est de devoir partager en fait cette enveloppe avec le secteur privé. Il demande donc au gouvernement de revoir sa copie. La Fédération hospitalière de France estime à 5,5 milliards les besoins, mais ça c'est uniquement pour l'hôpital public. Les négociations vont donc s'intensifier dans les jours à venir et les représentants syndicaux disposent d'un moyen de pression dans ces échanges. Une nouvelle mobilisation dans la rue est déjà prévue le 30 juin, mardi prochain.
Mao Becker-Granier, merci. Le professeur Didier Raoult devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale hier, commission d'enquête sur la gestion par les autorités de la crise du coronavirus. 3 heures d'audition et les critiques du chercheur marseillais, notamment sur le conseil scientifique chargé d'épauler le gouvernement. Une faillite totale, un conseil scientifique qui n'en est pas un, lâche Didier Raoult. Le professeur qui dénonce également une organisation archaïque des tests, la France qui aurait pu tester massivement plus vite selon lui.
Dès le début de mars, l'OMS a recommandé de tester tous les gens qui étaient suspects ou contacts pour le Covid-19. Il y avait les moyens dans ce pays de le faire. On n'a pas dit la vérité. C'est un examen extrêmement simple, banal, tout le monde est capable de le faire. Ça peut être fait dans les labos privés. C'était indispensable de le faire parce qu'on ne connaissait pas la maladie. Mais à partir du moment où le test n'était pas fait, on ne pouvait pas étudier la maladie. Tout ce que l'on a déduit sur la maladie, on l'a déduit à partir de la grippe et ce n'était pas vrai.
Didier Raoult face aux députés hier, Didier Raoult face à vous, Jean-Jacques Bourdin ce matin à 8h20, rendez-vous tout à l'heure. RMC 7h33, le chômage partiel longue durée qui sera indemnisé à 84% du salaire net avec un reste à charge de 15% pour les entreprises pour une durée maximale de 2 ans. Annonce hier de l'Élysée après une rencontre après les partenaires sociaux. Nouveau dispositif qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain après un accord collectif. Volonté de l'exécutif de limiter évidemment au maximum la casse sociale ces prochains mois. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi à la fin du mois dernier doit être d'ailleurs publié aujourd'hui à midi. Journée de mobilisation aujourd'hui pour les anciens salariés de Luxfer à Gerza dans le Puy-de-Dôme. Une usine qui produisait des bouteilles d'oxygène pour le secteur médical et pour les pompiers. Usine délocalisée en Roumanie, licenciée il y a un an. 136 personnes réclament aujourd'hui la relocalisation de leur usine et dénoncent l'inaction du gouvernement. Les salariés qui veulent devenir un symbole du monde d'après, celui donc de la relocalisation en France. Reportage de Florence Donjon.
Derrière les grilles scellées de l'usine, Axel Peronzic, ancien délégué CGT, a du mal à cacher sa frustration.
Ça fait mal au cœur de voir une friche alors qu'on a des machines qui sont prêtes à démarrer.
Il y a un an, le groupe basé en Angleterre fermait l'usine de Gerza, pourtant bénéficiaire. Une aberration pour ce syndicaliste.
Il y a quand même eu deux crises ces deux dernières années. Les incendies et de l'autre côté, la crise du Covid-19. Et ben nous, on est équipementier pour les deux. On est les derniers du territoire et on a un groupe qui fait exprès de maintenir à l'arrêt cette usine pour forcer l'Europe à payer plus cher ses produits.
Le ministère de l'économie et le groupe Luxfer ont entamé des négociations pour la vente du site il y a maintenant deux mois. Frédéric Vigier, ancien délégué CFDT, appelle l'État à prendre ses responsabilités.
Il y a quand même des lois qui ont été votées pour réquisitionner. Donc l'État a tout à fait les possibilités d'utiliser les moyens juridiques pour faire céder le groupe.
André Chassaigne est député du Puy-de-Dôme et soutient les ex-salariés depuis la première heure. Il plaide pour l'intérêt national.
Il arrivera un moment où notre dépendance fera qu'on ne pourra pas se fournir en bouteille. Donc il faut travailler pour l'avenir. Et travailler pour l'avenir, c'est avoir la maîtrise de cet outil de production.
La manifestation qui se veut nationale espère rassembler 1 millier de personnes sur le site.
Un immense nuage de sable et de poussière venu du désert du Sahara circule au-dessus des Caraïbes et a même commencé à frapper la Floride. Qualité de l'air dégradée à Miami. Les responsables sanitaires conseillent d'ailleurs aux habitants souffrant de problèmes respiratoires de rester chez eux. Ça risque de durer jusqu'à la semaine prochaine. Le phénomène n'est pas rare en soi, mais il est exceptionnel par son intensité cette année. Forte chaleur qui s'installe chez nous aujourd'hui sur la France. Plus de 30 degrés partout, jusqu'à 35 degrés à Lyon et à Paris. 37 degrés dans le sud-ouest. Avec ces températures, pas facile de porter un masque, notamment pour les professionnels de la restauration, cafetiers ou restaurateurs. Reportage à Toulouse de Jean-Wilfried Forquès.
Dans ce café-restaurant de la place du Capitole, les serveurs multiplient les allées et venues entre la terrasse et le bar. Selon Mehdi, pas facile de travailler avec un masque en période de forte chaleur.
Chaleur, machine à café, machine à laver plonge, frigo pour tenir les bouteilles au frais. Ça crée beaucoup, beaucoup de chaleur. Et on a du mal à respirer avec le masque au bout d'un moment. Et voilà, on est obligé de sortir, de se ventiler. Et c'est très difficile. Et on a des fortes chaleurs, c'est très dur. Très, très dur.
Et pour ceux qui travaillent en cuisine, il faut ajouter des fortes températures provoquées par les fours notamment. C'est pour cela que le responsable local de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, Aïvo Danaf, milite en faveur de modifications.
Qu'on garde les masques pour le personnel du service, pour protéger les clients, nous sommes d'accord. Mais par contre, au niveau du personnel de cuisine, qui vivent ensemble, qui sont toujours à proximité les uns des autres, je crois que ça mériterait un assouplissement. Et donc l'abandon du masque éventuellement.
Et ici à Toulouse, jusqu'à la fin de la semaine, on attend des températures comprises entre 33 et 35 degrés.
Des chaleurs qui renforcent la pollution à l'ozone. Circulation différenciée mise en place aujourd'hui dans l'agglomération parisienne. Seules les voitures munies d'une vignette critère 0 à 2 seront autorisées à circuler aujourd'hui. Les courses, Paris-Longchamp, Anaïs.
Pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 4, Sous les nuages. Outsider numéro 13, Reventador.
Merci Anaïs. Allez. Vous savez que tout à l'heure, je reçois le professeur Didier Raoult et je vous conseille de regarder cette interview parce que j'ai plein de questions à lui poser. Sans, encore une fois, sans parti pris, je lui poserai des questions et les questions qui doivent être posées. Je lisais le communiqué de presse de nombreux médecins et Pierre Tadevin est avec nous, le professeur Tadevin qui est président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Bonjour professeur Tadevin.
Bonjour.
Vous co-signez ce communiqué. Je lis. Nos instances représentant les médecins spécialisés en maladies infectieuses en France souhaitent dénoncer les affirmations sans fondement qui ont été diffusées sur des chaînes de radio-télévision au cours des derniers jours. Elles sont d'autant plus graves qu'elles sont l'œuvre d'un médecin, le professeur Raoult. Selon ses propos, 25 000 morts liées à la Covid-19 auraient pu être évitées en France si la combinaison hydroxychloroquine et azithromycine avait été prescrite massivement. Ces affirmations sont mensongères et même diffamatoires, professeur ?
Bonjour. Alors pour rectifier, en fait, le médecin qu'on avait, pour lequel on avait fait la tribune, là, c'était suite aux affirmations du professeur Perron.
Professeur Perron, oui, d'accord, voilà. Oui.
Bon. Effectivement, c'était quelque chose qui
c'est le professeur vraiment... Perron qui parlait de 25 000 morts parce que, si j'ai bien compris, Didier Raoult n'a pas donné de nombre de morts.
Non, non, non. Mais c'était un peu le même propos et finalement c'est le même problème, c'est-à-dire qu'on sait maintenant au bout de 3 mois que l'hydroxychloroquine n'apporte aucun bénéfice, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui l'a dit, c'est l'Agence Européenne du Médicament, c'est les instances américaines, donc maintenant on en est certain. Donc on espérait que maintenant qu'on le sait, on allait un peu apaiser la polémique, on allait arrêter de donner ce médicament à tous les patients, et surtout qu'on n'allait pas se retrouver avec ce genre d'affirmation. C'est grave parce que les gens sont en train de se remettre d'une crise qui a été difficile, il y a eu beaucoup de morts, les 25 000 ont existé, et d'aller dire après aux patients ou à leur famille, eh ben, si vous aviez eu l'hydroxychloroquine, ça ne serait pas passé comme ça, c'est vraiment très catastrophique sur... que les gens puissent penser qu'ils ont été maltraités et que c'est pour ça que
ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on laisse entendre, professeur Raoult et le professeur Perron laissent entendre que des Français auraient été abandonnés, n'auraient pas été soignés, c'est cela ?
Mais oui, ce qui est...
Que des médecins seraient presque des criminels ?
Ça a été dit comme ça et c'est totalement faux et c'est criminel de le dire par contre, parce que les gens sont en train de se remettre de cette crise. C'est pas le moment d'aller leur dire vous avez été mal soigné, les médecins sont mal occupés de vous. C'est faux.
Bien, vous restez avec nous, évidemment, professeur Tadevin. Nous avons le docteur Alain Ducardonnet qui est aussi là, qui a suivi hier la prestation du professeur Raoult, hier, devant l'Assemblée nationale, la commission de l'Assemblée nationale. Nous en parlons juste après la pub. Il est 7h48, au moins à tout de suite.
RMC 6h-9h.
Bourdin Direct.
Le professeur Pierre Tadevin, qui exerce à Rennes, d'ailleurs, hein, professeur, vous êtes infectiologue.
Oui.
Voilà, à Rennes. D'ailleurs, à Rennes, est-ce que vous avez eu beaucoup de cas ? Est-ce que vous avez eu beaucoup de décès ?
Alors, on a eu beaucoup de cas par rapport à une année normale, et ça a été assez terrible, mais beaucoup moins que le reste de la France. Et au niveau des décès...
Comme à Marseille, quoi, si j'ai bien compris.
À peu près, j'imagine, par habitant, c'était à peu près pareil.
À peu près comme à Marseille, avec l'hydroxychloroquine ou pas ?
Alors, on ne l'a pas utilisé, non, on n'a pas eu... On l'a utilisé dans le cadre des essais, mais pas pour tout le monde.
Oui.
Et maintenant, on ne l'utilise plus du tout, maintenant qu'on sait que ça fonctionne.
Pourquoi ? Est-ce que vous ne l'utilisez plus du tout ?
Ben, y a eu toute une série d'études bien faites où ils ont comparé les patients qu'on a reçus et ceux qu'on n'a pas reçus et qui montrent que ça n'apporte aucun bénéfice.
Aucun bénéfice ? Vous êtes formel ?
Ben, pas moi, mais les études, oui.
Alors, qu'a dit hier à propos de l'hydroxychloroquine ? J'ai trouvé, en regardant le professeur Didier Raoult, Alain Ducardonnet, qu'il ne s'attardait pas trop, quand même, sur l'hydroxychloroquine, non ? Je ne peux pas la recommander, dit-il.
Oui, globalement, c'est un petit peu confus, tout ça. Moi, je suis resté sur ma faim, parce qu'il y avait des questions qui étaient, au départ, plutôt sympathiques, qui étaient un petit peu plus tendues en fin d'interview, si on peut dire, des parlementaires. Et c'est vrai que les réponses, globalement, ont été assez décousues, assez à l'emporte-pièce. Et sur le domaine de l'hydroxychloroquine, moi, j'étais très surpris parce que Didier Raoult dit ben, il y a 4 études. Sur ces 4 études, il y en a 3 qui sont positives. Il faut vraiment qu'on ait les références, qu'on nous les donne.
En fait, il parle essentiellement des études marseillaises. On a l'impression qu'il n'a pas lu ou pas regardé ce qui avait été fait ailleurs.
Donc la question, et les études marseillaises, il faut quand même le dire, lui qui est dans le conflit d'intérêts en disant mais attention, etc., elles ont quand même été publiées dans les revues dont ses collaborateurs sont justement les reviewers et rédacteurs en chef adjoints. Donc voilà, tout ça a été très confus, j'ai trouvé. Et globalement, sur le plan médical, on n'a pas appris grand-chose. Parce que dire que les tests PCR, fallait les faire, oui, bien sûr, fallait les faire. Mais comment lui a réussi
à raison. Là, il a raison.
Il a 100 fois raison.
Il a 100 fois raison. Sur les tests, je l'ai trouvé très convaincant.
Et les Allemands, mais moi j'aurais bien aimé qu'ils nous disent comment est-ce qu'il a trouvé les réactifs ? Comment est-ce qu'il a trouvé les écouvillons qu'on ne trouvait pas ailleurs ?
Dites-moi, comment ? Peut-être parce que un laboratoire finance sa fondation, c'est un laboratoire qui travaille sur la santé animale.
Oui, mais peut-être.
Sur les tests qu'il a aidé, non ?
Mais il fallait le dire clairement.
J'ai dit ça.
J'ai pas la réponse de savoir comment il a réussi à en avoir autant au moment où on en manquait un peu en France. Mais
oui, enfin, il a réussi, lui. Oui. En avoir.
Oui.
Et il a testé. Et il a eu raison de tester.
À ce stade-là, c'était pas le plus important. C'est plus important de tester maintenant où on essaye de repérer si ça repartait. Au moment où il y en avait partout en France.
Et on teste pas assez aujourd'hui.
Dites-moi, ce serait pas que c'est désolant pour le personnel soignant, pour les patients. C'est désolant ces querelles scientifiques.
Absolument. C'est pour ça que jusqu'ici, nous, on n'était pas rentrés dans la querelle. C'est vraiment. Quand on a commencé à dire aux gens « Vous avez été très mal soigné, vous êtes mort parce qu'on ne vous a pas donné le bon médicament », qu'on est rentré effectivement dans la bataille, alors qu'en tant que société savante, ce n'était pas notre objectif d'aller encombrer les plateaux télé pour dire « On n'est pas d'accord avec un tel, on n'est pas d'accord avec un tel ».
Alain ?
Je crois que oui, le débat était tellement confus qu'on ne sait plus.
Oui, allez-y, pardon.
J'ai été frappé par... À un moment, on lui dit, mais alors, en fin de compte, la méthodologie, il y a quand même des études qui sont faites. Il répond, la méthodologie ne m'intéresse pas. On n'est plus au stade de la science. C'est quand même très surprenant comme remarque pour balayer, en fin de compte, le fait que... Alors, il conclut en disant, il y a 50% des médecins dans le monde qui donnent de l'hydroxychloroquine. Mais où ? Le problème de toute cette intervention, je trouve, c'est qu'il n'y avait pas, malheureusement, à mon sens, c'est ce qui nous a manqué.
De questions précises.
De questions précises, surtout de réponses précises. Pas documentées. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait des éléments précis. Monsieur Bourdillon, quand il a parlé des masques, il a donné des dates, il a donné des chiffres. C'était extrêmement précis. Là, j'ai trouvé qu'on manquait de références. Et j'espère que tout à l'heure, vous allez pouvoir, Jean-Jacques, être un petit peu plus précis avec
nous. J'essaierai. Moi, vous savez, je ne suis pas médecin. Donc, je vais essayer de poser les questions du grand public, les questions que tout le monde se pose. Est-ce que l'intuition est suffisante pour imposer des choix thérapeutiques en médecine?
Alors ça, c'est vraiment le point crucial, parce que si on se met à accepter ça pour le Covid, toute la médecine va se mettre à faire n'importe quoi. Il a dit hier, à la fin de son audition, que pour le sida, il n'y avait pas eu besoin d'études randomisées, qu'il suffisait de mesurer, d'essayer un traitement et qu'on voyait si ça marchait. Alors que si on avait appliqué la méthode Raoult pour le sida, je pense que les patients seraient encore en train de mourir. C'est vraiment important de bien tester les médicaments, de bien les évaluer avant de les imposer à tout le monde. On ne peut pas faire ça sur l'intuition. On va faire plein d'erreurs si on fait ça.
C'est un gros déchet. Est-ce que toute cette querelle autour de l'hydroxychloroquine, c'est un gros déchet?
C'est terrible, parce que ça a occulté plein d'autres choses. Il y a, quand on met en avant les conflits d'intérêts, on sait, c'est classique, c'est connu. Mais là aussi, il faut documenter, il faut dire de quoi on parle. Est-ce que la Fondation Mérieux, qui aide l'IHU, est aussi avec des laboratoires? Il y a plein d'éléments qui sont confusants. Et moi, je regrette vraiment qu'on n'ait pas ici hier vu clairement les choses et qu'on n'ait pas documenté les réponses. C'est mon vrai problème, ça.
Où en est-on de cette crise sanitaire? Professeur, parce que vous êtes avec nous, autant en profiter. Professeur Tadevin, où est-ce qu'on en est?
Pour la France, pour l'instant, c'est quand même c'est calme. Oui. Et c'est même plus calme que ce qui avait été anticipé à la fin du déconfinement. Donc il faut être très vigilant, hein, ça peut repartir vite. Mais pour l'instant, on a l'impression que la stratégie qui consiste à repérer vite les cas et à éviter les chaînes de transmission en isolant les contacts, en les testant et en les isolant, fonctionne bien.
Mais on a cru, par exemple, que la chaleur allait tuer le virus. On l'a entendu dire. Et tout à l'heure, j'avais un auditeur qui me disait, en Arizona, en Floride, où il fait très chaud actuellement, le virus prolifère.
Il y a un point important à rectifier dans ce que je viens de dire, c'est qu'il ne faut pas oublier la Guyane. La Guyane est en train de souffrir beaucoup. Alors quand on dit en France, ça va bien,
c'est vrai.
En métropole, c'est important de le dire. Ouais. La chaleur, on ne sait pas très bien, honnêtement.
Oui, honnêtement.
Et la Guyane est un exemple. Hein. C'est quand même un pays plutôt chaud et ça ne les empêche pas d'être en train de subir une crise très difficile. Ce que souligne la Guyane, par contre, c'est qu'on a probablement trop réagi pendant cette crise en tant qu'État. Ce qui fait que, par exemple, la Guyane a été confinée pendant les 2 mois où l'épidémie sévissait en Europe. Parce que la Guyane...
Mais pas en Guyane.
Et bien voilà. Et maintenant, ils se sont déconfinés le 11 mai. Ils ont été obligés de se reconfiner parce que l'épidémie est en Amérique latine.
Évidemment, évidemment. Est-ce qu'il y aura des suites aux propos tenus par Didier Raoult ou le professeur Perronne, vous pensez?
Pour ce qui est... Oui, je pense qu'en tout cas, il faut
des
que...
Des suites même judiciaires?
Il faut reconnaître que il faut qu'il
y aura des plaintes déposées.
Le Conseil de l'ordre, c'est
le Conseil de l'ordre
national a décidé d'auditionner, de voir le professeur Perronne pour lui demander des explications, parce que c'est vrai que c'est une accusation grave par rapport à tous les autres médecins.
Professeur.
Oui, je pense que ce serait vraiment au Conseil de l'ordre de faire ça, et je pense qu'ils y réfléchissent beaucoup. Ça s'est accéléré depuis quelques jours, maintenant qu'on sait que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas, que les gens sont auditionnés, donc je pense que ça va se débloquer de ce côté-là.
Oui. Vous avez peur du comportement des Français? Quand vous voyez le comportement des Français, les Français qui organisent des réunions de famille, qui portent moins le masque, qui recommencent à s'embrasser, ça vous inquiète ou pas, franchement, professeur? Franchement,
Non. Je pense que les gens ont été globalement plutôt raisonnables, quand même, plus que ce qu'on aurait pu imaginer il y a 3 mois. Et effectivement, les gens se détendent un petit peu maintenant, il faut faire attention, mais je trouve que les Français sont plutôt bien comportés, globalement.
Qu'est-ce que vous auriez envie de demander au professeur Raoult, vous, Alain Ducardonnet?
Qu'il soit précis dans ses réponses.
C'est-à-dire
Non, mais c'est vrai que quand on dit qu'il y a 3 études qui sont a priori positives, qu'on dise, c'est les études que j'ai publiées moi-même à Marseille. Voilà, ça c'est précis. Mais ne pas laisser entendre que les études internationales dites randomisées, qui ne sont pas d'ailleurs le cas de celles du professeur Raoult à Marseille, soyons précis.
Non, mais il dit que les études randomisées, plus personne n'en veut.
Oui, c'est ça, c'est quand même la façon de...
C'est vrai ou faux, ça?
Non, c'est totalement faux. Vraiment, on sait maintenant en médecine que si...
Alors,
on veut pas...
Expliquez-nous les études randomisées. Expliquez-nous, parce que professeur...
En fait, l'idée, c'est que si on choisit qu'on donne un médicament à un groupe de patients, un médicament à un autre groupe, s'il y a des différences entre les deux groupes, s'ils n'étaient pas pareils au début, on ne peut pas savoir si c'est lié au médicament ou si c'est parce qu'ils n'étaient pas pareils. Donc la randomisation, c'est que les traitements sont tirés au sort, le patient est tiré au sort pour savoir s'il va recevoir par exemple l'hydroxychloroquine ou pas de traitement. Et quand on fait ça, on s'aperçoit qu'au bout du compte, les gens vont aussi bien qu'ils aient reçu l'hydroxychloroquine ou pas de traitement.
Et c'est d'autant plus important qu'encore une fois, l'évolution spontanée, dans 85% des cas, va vers la guérison. Donc vous ne pouvez pas savoir au bout de 8 jours si c'est le médicament ou si c'est l'évolution spontanée.
Oui, la guérison qui n'est pas toujours facile. Écoutez Carole, qui est avec nous en direct. Carole qui est à Perpignan. Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Jacques. Bonjour le professeur Raoul.
Professeur voilà. Raoult, il est là tout à l'heure. Hein, pas encore, alors, c'est bon, le professeur Tadevin qui est là.
Il est barbu.
Et Alain Ducardet. Moi, je suis là, oui. je suis le trait d'union. Carole, vous avez fait 4 jours sous oxygène, voilà. Jour et nuit, à cause du Covid.
Exactement, ça m'est tombé sur la figure comme ça.
Oui.
Depuis, je suis vidée, exténuée. Je manque de souffle.
Ça fait combien de temps, Carole?
Ça fait 4 mois.
4 mois.
Je suis 4 mois, je suis exténuée. Et mon gros problème, Jean-Jacques, c'est que personne n'arrive à me donner de réponse. Je vais chez des pneumologues, chez mon généraliste. Je fais de la kiné par moi-même parce que personne ne dit, tiens, on pourrait faire ça ou on pourrait essayer de faire ça. C'est toujours dans des réponses un petit peu tremblantes. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on peut faire. On ne sait pas ce qu'on va vous donner. Mais moi, je voudrais poser une question. Qu'est-ce qu'on peut me donner pour pouvoir me soulager? J'ai une barre à la poitrine toute la journée. Voilà, toute la journée, à l'effort ou pas à l'effort. Similaire à un début d'infarctus, je dois m'arrêter sur la route parce que j'ai des pics au niveau de la poitrine qui me transpercent recto-verso. J'ai ces douleurs qui deviennent complètement omniprésentes chez moi, me font flipper complètement parce que je n'ai aucune réponse. Et j'avais une vie active, j'avais une vie normale, je n'ai que 55 ans et j'ai l'impression de vivre dans un EHPAD et d'être une mamie, quoi.
Les conséquences terribles qu'on a un peu oubliées et qu'on ignore. Un professeur.
Ah oui, ce qu'a décrit effectivement, retrouvé chez peut-être 10 à 15% des gens, y compris les gens qui n'ont pas fait de forme grave. On est en train, c'est vrai, elle a raison de dire que c'est difficile quand on n'a pas les réponses, mais la plupart de ces patients ont tendance quand même petit à petit à s'améliorer
petit à petit.
Et surtout, on a fait des tas d'examens pour rechercher les maladies dont elle parlait un peu, s'assurer que ce n'est pas un infarctus, que ce n'est pas une embolie pulmonaire, que les poumons ne sont pas en train de fibroser, etc. Et tous les bilans jusqu'ici chez ce genre de patients sont plutôt rassurants. Donc on a l'impression que c'est la queue de la maladie qui a dû être...
Carole, peu à peu, d'après ce que nous dit le professeur Tadevin, Alain Ducardonnet, vous avez entendu ces témoignages.
On sait que dans les maladies virales, souvent il y a une espèce de fatigue, de symptômes un petit peu polymorphes. Et c'est vrai que malheureusement, il faut être patient, car ce que vient de dire le professeur est important.
Je n'entends que ça, soyez patiente.
Je sais bien, mais c'est parce qu'on ne connaît pas l'évolution spontanée, malheureusement.
Il faut être
humble, on ne sait pas, et donc on ne peut que vous encourager, malheureusement. Parce qu'en tous les cas, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas de maladie, comme on vient de le dire, qui sous-tende ces symptômes.
Moi, dans tous les cas, je vais réagir en vraiment un auditeur lambda. J'aime les médecins qui doutent. Je n'aime pas les médecins qui sont pleins de certitudes. Vous aussi, professeur ?
Oui, je pense que surtout devant un nouveau virus,
un médecin doit douter.
Particulièrement quand un virus vient d'arriver et qu'on ne le connaît pas.
Oui, oui. On ne sait pas tout de ce virus. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Merci, messieurs. Merci, professeur Tadevin. Merci, Alain Ducardonnet. Tout à l'heure, donc, Didier Raoult sera avec moi à partir de 8h20 sur RMC et BFM TV. Il est 7h57.
On va parler après le journal de la condition animale. Imposer un certificat de connaissance minimale pour ceux qui veulent adopter un chien ou un chat. Ça fait partie des propositions qui figurent dans un rapport parlementaire qui vient d'être remis au gouvernement. Loïc Dombreval, député La République En Marche des Alpes-Maritimes et président du groupe d'études qui a travaillé sur ce sujet, sera avec Jean-Jacques Bourdin à 8h10 sur RMC.
RMC.